Héloïse Fayet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales. L'Iran a annoncé qu'il avait commencé la construction d'un quatrième réacteur de recherche nucléaire dans le pays. Les fondations en béton de cette installation d'une capacité de 10 mégawatts ont d'ailleurs été coulées dans la mégalopole d'Ispahan. Alors, pour commencer, concrètement, que cela signifie-t-il?
Alors, il faut bien distinguer les réacteurs de recherche des réacteurs qui contribuent au programme nucléaire iranien. À ce jour, il n'y a que deux installations qui permettent à l'Iran d'enrichir de l'uranium et donc potentiellement un jour peut-être de fabriquer une arme nucléaire, donc qui sont situées à Natanz et à Fordo. Et donc pour le moment, on n'a pas d'informations permettant de savoir si ces nouvelles installations nucléaires à Ispahan seront, on va dire, significatives ou pas pour le programme nucléaire proliférant iranien.
Il s'agit là de la plus grosse avancée sur le plan nucléaire de l'Iran depuis un petit temps, non?
Alors sur le plan effectivement des réacteurs de recherche, c'est une grosse avancée. Après sur le plan de l'enrichissement, donc c'est ce qui inquiète la communauté internationale, il y a eu aussi des avancées importantes mais un petit peu plus discrètes sur la configuration de certaines installations d'enrichissement qui permettent à l'Iran de produire encore plus de combustible enrichi.
Vous parliez du fait d'être inquiet, alors on doit s'inquiéter de cette annonce?
Sur la construction pour l'instant de cette nouvelle centrale à Ispahan ne me semble à ce jour pas inquiétante, mais tout va dépendre des capacités de l'Agence internationale de l'énergie atomique à accéder à ce site, à le surveiller, à pouvoir vérifier s'il entre bien dans les réglementations sur le nucléaire civil. Mais à mon sens, le programme nucléaire iranien est déjà suffisamment inquiétant comme ça. Ce n'est pas en fait avec cette nouvelle centrale n'a rien pour nous rassurer, mais le programme est déjà assez inquiétant.
Alors, vous parliez justement de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'AIEA, elle a encore un moindre contrôle sur ce nucléaire iranien. Raphaël Grossi prétend qu'elle est prise en otage.
Alors, l'AIEA n'a pas de vocation de contrôle du programme nucléaire iranien, mais plutôt d'inspection. Et effectivement, elle a énormément de mal depuis plusieurs années, en fait, depuis la sortie des États-Unis du JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire iranien. L'AIEA a des difficultés à accéder aux sites nucléaires, aux nucléaires iraniens. Ses inspecteurs peuvent faire l'objet de harcèlement. L'Iran a également détruit et désinstallé certains équipements qui permettaient de surveiller ce programme. Cependant, pour l'instant, l'AIEA arrive toujours à fournir des rapports réguliers sur le programme nucléaire iranien et c'est ça qui nous permet de voir à quel point l'Iran augmente son enrichissement de l'uranium.
Il n'y a donc toujours pas d'intention de l'Iran de se laisser inspecter.
À ce jour, l'Iran freine toujours les inspections, mais il y en a tout de même qui arrivent à avoir lieu, ce qui permet à l'Iran d'être un petit peu dans un double jeu, c'est-à-dire fournir assez de garanties à la communauté internationale pour pas qu'il n'y ait de nouvelles sanctions apportées à son programme, mais tout de même pas assez d'ouverture pour que l'Iran puisse continuer certaines activités qui sont très suspectes. Même si à ce jour, il n'y a pas d'informations permettant de dire que l'Iran est dans un programme nucléaire militaire à des fins de création d'une arme nucléaire.
Alors évidemment, cette annonce intervient dans un contexte tendu dans la région. Cette information, elle montre que l'Iran est bien, comme l'appellent les États-Unis, le perturbateur régional principal.
À mon sens, il convient tout de même de décorréler les activités iraniennes et de ces groupes d'influence de la situation actuelle et du programme nucléaire de l'autre côté. On voit effectivement que l'Iran a des capacités de perturbation du Moyen-Orient, car il a une influence certaine sur certaines milices comme les Houthis ou certaines milices chiites irakiennes qui s'attaquent aux forces américaines. Mais son programme nucléaire est tout de même traité séparément par les chancelleries occidentales et relève d'un processus beaucoup plus encadré parce que il est possible sur des bases juridiques internationales d'inspecter et de contraindre le programme nucléaire iranien. Or, rien n'interdit à l'Iran de financer le Hezbollah ou certaines milices chiites en Irak. Et donc, à mon sens, ça fait partie effectivement d'un schéma global d'influence au Moyen-Orient et de positionnement de l'Iran comme un acteur qui compte sur la scène régionale, mais ce sont quand même deux problématiques distinctes.
Donc, vous l'avez rappelé, en 2015, ce sont les États-Unis qui sont sortis du JCPOA. Aujourd'hui, 2018, pardon, l'accord a été signé en 2015. Où se trouvent les États-Unis aujourd'hui?
Alors, les États-Unis, pour l'instant, ont montré, disons, une volonté de signer un accord bilatéral avec l'Iran, ou en tout cas d'atteindre une sorte d'accord non officiel avec l'Iran pour limiter l'enrichissement de l'uranium en échange de certaines levées de sanctions. Mais ça, c'est un effort qui a déjà été fortement perturbé par la guerre en Ukraine, parce que les liens entre l'Iran et la Russie, qui se sont intensifiés à la faveur de la guerre en Ukraine, ont fortement dérangé ce processus de négociation. Et puis, évidemment, ce qu'il se passe depuis octobre 2023 et l'aide avérée apportée par l'Iran à certains groupes comme le Hamas ou le Hezbollah rendent les négociations encore plus complexes, car il n'est pas question pour Joe Biden et pour l'administration démocrate de s'afficher aux côtés de négociateurs iraniens. Et évidemment, ça sera encore moins le cas si Donald Trump revient au pouvoir en novembre 2024, étant donné que c'était lui qui était sorti du JCPOA.
La cible principale de l'Iran, c'est Israël. Israël doit-elle craindre pour sa sécurité avec cette annonce? On sait qu'il y a les milices qui sont dirigées vers Israël. Aujourd'hui, le nucléaire pourrait être une arme supplémentaire pour l'Iran?
Alors, à nouveau, l'Iran n'a pas l'arme nucléaire et pour l'instant ne montre pas de velléité de l'acquérir. Il est important de comprendre que même si l'Iran décide aujourd'hui de développer une arme nucléaire, c'est quelque chose qui prendra plusieurs années et qui mettrait l'Iran en contradiction vis-à-vis de ses engagements internationaux, notamment la signature du traité de non-prolifération nucléaire. Et encore à ce jour, les coûts de développement pour l'Iran, donc les coûts financiers, scientifiques, stratégiques de développement pour l'Iran d'une arme nucléaire sont largement supérieurs aux bénéfices que l'Iran pourrait en retirer, tout simplement parce qu'encore aujourd'hui, l'Iran, même s'il n'a pas l'arme nucléaire, n'est pas attaqué sur son territoire. Et l'Iran, grâce à ce réseau de proxy chiites et sunnites, comme le Hamas, arrive à tout de même attaquer le territoire israélien ou à attaquer les forces américaines en Irak et en Syrie. Donc en fait, à ce jour, l'Iran ne semble pas avoir besoin de l'arme nucléaire car il arrive déjà à être assez perturbateur, comme disent les Américains, dans la zone. Donc non, les récentes annonces ne sont pas un signe supplémentaire pour Israël, d'autant plus qu'il faut le rappeler, c'est Israël dans la région qui détient l'arme nucléaire et non l'Iran.
Héloïse Fayet, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.